Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, des clés cette semaine pour perdre peut-être son temps, un peu de temps à l'écoute de cette série que je vous propose sur ce thème de la patience avec cet ouvrage paru aux éditions Arthège il y a quelques mois, Éloge spirituel de la patience. Je reçois son auteur, Père Ludovic Frère, recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. Bonjour Père Ludovic.
Bonjour à tous.
Merci de votre temps, ce temps que vous accordez dans cette série.
Merci aussi à vous et aux auditeurs de prendre le temps.
De prendre le temps d'écouter, car oui, il y a aussi ce temps. Est-ce que je fais le choix ou non de me poser pour écouter? C'est une décision, au fond.
C'est une décision. Je crois que nous sommes à la fois appelés à reconnaître que nous ne sommes pas propriétaires du temps, c'est ce dont nous avons parlé dans notre précédente rencontre, et qu'en même temps, nous avons une vraie responsabilité de gestionnaire. Et on pourrait distinguer entre propriétaire et gestionnaire.
Ah, tout à fait,
nous ne sommes pas propriétaires, mais nous sommes appelés à bien gérer. Et cette gestion du temps implique quelques clés. Peut-être qu'on va en aborder certaines aujourd'hui.
Alors, dans votre ouvrage, dans votre conférence aussi que vous présentez ici pendant ce rosaire, vous donnez, vous allez donner tout de suite à l'auditeur qui prend le temps de vous écouter sur ce thème-là, une clé pour vivre notre temps et savoir aussi apprendre à distinguer, je trouve que c'est intéressant, donc de distinguer entre l'urgent et l'important.
Oui, c'est vraiment précieux parce que peut-être actuellement plus encore que dans les générations précédentes, il y a une sorte de pression de l'urgent. Et tout devient urgent et en fait, est-ce qu'on prend le temps de se poser la question est-ce que ce statut d'urgence est légitime? Bah, évidemment, vous avez un proche qui se blesse, vous l'emmenez à l'hôpital, il n'y a pas de souci, il y a une urgence importante à laquelle il faut répondre. Mais il y a un certain nombre de nos urgences qui peuvent être non importantes, auxquelles on laisse une place énorme, au détriment de quoi? Bah, de réalité plus importante.
Et vous pensez à quoi, un exemple?
Je prends un exemple. On peut aimer une émission de télévision, par exemple. Et une série télé, pour le dire, parce que les séries télé, ça peut prendre beaucoup de temps, et c'est d'ailleurs très bien fait pour vous encourager, quand un épisode est terminé, à courir après le suivant. C'est très bien, le divertissement, tout ça, changer des idées, il n'y a aucun souci. Mais si le souci de la série télé l'emporte sur le fait qu'il est quand même important que je prenne des nouvelles d'un proche parent âgé, ou tiens, ce serait quand même important que je consacre un peu de temps à la prière. Et le problème de ces réalités importantes, c'est que comme elles n'ont pas d'urgence, on a tendance à dire « ouais, je le ferai plus tard », la fameuse procrastination, on verra plus tard. Et puis après, notre proche parent décède et on est dans la culpabilité de se dire oh, « si j'avais su, j'aurais pris quand même plus de temps pour aller le ou la visiter, je lui aurais dit que je l'aime et maintenant il y a quelque chose d'une occasion manquée ». Voyez. De même dans la prière, il y a pas d'urgence à prier, sauf si on rate un virage, tout à coup, là, hop, oh Seigneur, l'urgence de prier arrive. Mais est-ce que ce serait quand même pas opportun qu'une réalité qu'on considère comme importante, on lui accorde du temps avant qu'elle prenne un caractère d'urgence?
Alors au fond, pour le croyant, n'oublions pas aussi le non-croyant qui nous écoute, croyant, mais cette émission et ce thème du temps concerne chacun et chacune, n'écortons personne. Qu'est-ce que ça dit pour le croyant, cette urgence et cette importance autour du temps de sa vie spirituelle?
Mais certainement, ça interroge sur la place, non pas pour entrer dans une culpabilité, je ne veux pas pointer du doigt, mais inviter à s'interroger, voyez. Quelque chose qui est vraiment important pour nous, on arrivera toujours à prendre du temps pour cela. Je crois que l'expression « je n'ai pas le temps », elle n'est pas correcte.
Au fond, vous vous posez la question, vous interrogez sur la question de, pour une personne croyante, quelle est sa priorité?
Oui.
Où met-il la prière?
Oui.
Dans sa vie de tous les jours, au
Oui.
quotidien?
Oui. Oui, parce que je suis convaincu qu'on doit dire « je décide de ne pas prendre du temps » et non pas « je n'ai pas le temps ». Vous voyez? Et bien sûr que des fois on est dans une pression d'activité à accomplir, ce qu'on appelle dans la foi le devoir d'État. Hein, et ce serait pas juste qu'un père ou une mère de famille se dise je néglige mon couple ou mes proches parce qu'il faut que j'aille prier. Non, là il y aurait quelque chose qui n'est pas ajusté par rapport au devoir d'État. Voyez, mais si on se laisse manger par toutes les préoccupations du quotidien, en se disant où est la prière, non mais allez quand j'irai me coucher, puis évidemment quand on va se coucher on est épuisé, oh Seigneur tu comprends hein, je suis tellement fatigué, je prie pas aujourd'hui, et on rentre dans une logique où finalement la prière est en permanence mise de côté. Ce que je dis de la prière, on peut le dire d'autres réalités hein. Ça peut être l'attention à ses plus proches. Oui, je sais qu'il est important que j'accorde à mon conjoint, à un ami, à un de mes enfants, une qualité de temps plus importante. J'en ai conscience, mais là, je suis tellement pris par des urgences qu'on verra plus tard. Et ce plus tard conduit à être un jamais.
Alors, vous parlez aussi de cette qualité du temps.
Oui. En fait, l'important révèle aussi la qualité de temps qu'on veut offrir. Et là, on sent très bien.
En fait, c'est la qualité aussi de ma personne.
C'est la qualité de ce que je veux offrir.
Eh oui.
Voyez, on sent quelqu'un qui ne vous écoute pas quand vous lui parlez, il ne vous offre pas de temps. Il expédie le problème, d'une certaine manière. Voyez.
Tandis donc, il est se rassurer lui-même. Hein. Il a accompli un peu sa tâche, mais il ne s'est pas donné jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a une question de don dans cette histoire aussi de temps, de gestion du temps?
Forcément, le temps implique le don. C'est intéressant de voir qu'il y a deux réalités qui sont finalement assez proches, le rapport au temps et le rapport à l'argent. Et on se rend compte que dans les deux logiques, la question du don va révéler la vérité de notre cœur. Voyez ? Et que dans les deux logiques, par exemple, on veut bien donner, mais on ne veut pas perdre. Je veux bien donner 10 euros pour soutenir une œuvre caritative, mais perdre 10 euros, j'en ai horreur. Je veux bien donner 10 minutes de mon temps, mais perdre mon temps, j'en ai horreur. Or, des fois, pour que la qualité de relation soit authentique, il faut accepter de perdre et pas seulement de donner. Moi, je trouve que les moments les plus beaux que j'ai vécu dans ma vie, c'est quand j'ai lâché le contrôle de « je gère mon agenda » en acceptant de perdre du temps pour une personne que je croisais, et j'ai perçu qu'à ce moment-là, il fallait lui consacrer du temps.
Au fond, on peut entendre à travers ces propos que vous nous donnez que perdre du temps peut être profitable, au fond, pour gagner, mais dans la relation.
Oui, c'est une parole de Jésus, hein, qui perd sa vie, la gagne. Je trouve que c'est intéressant qu'il l'exprime ainsi. Hein. Le Seigneur Jésus ne dit pas qu'il donne sa vie, il dit qu'il perd sa vie. Voyez, on est dans autre chose. Le don peut encore être une certaine maîtrise. La perte est dans la non-maîtrise, et c'est à ce moment-là que l'autre et nous-mêmes, nous gagnons ensemble quelque chose.
Alors pour ceux et celles qui vous écoutent, on peut se dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans ce temps de perdre, mais on est dans cette rapidité de gagner, et toujours plus, et gagner en argent, puisque vous évoquez aussi l'argent, et gagner aussi en temps.
Oui, mais il n'y a pas de fatalité. Oui, quand on dit on est dans une époque qui, cette époque, on peut y reconnaître les belles choses, attention, hein, et on peut aussi se décider. Oui, le rythme d'Internet est un rythme effréné, mais ça n'empêche que je suis libre de prendre encore du temps pour des relations authentiques en vis-à-vis avec des personnes. Il n'y a pas de fatalité. Il ne faudrait pas qu'on se cache, voyez, derrière une sorte d'époque qui est comme ça, puis on n'y peut rien, qu'est-ce que vous voulez, on est né à cette époque.
Vous nous renvoyez à notre propre responsabilité.
Plus encore que responsabilité, à nos propres aspirations. La responsabilité, elle peut être de l'ordre moral. Là, c'est qu'est-ce qui nous habite en profondeur.
Quand c'est habité comme une fatalité, voilà, le monde est comme ça. Hein, voilà. Hein. Comment on peut redresser la barre, hein? On n'a plus, au fond, une attitude d'espérance.
Oui, Mère Teresa qui disait « Sois le changement que tu veux pour le monde ». Je pense que dans le rapport au temps, il y a aussi ça. Si vous trouvez que notre monde est dans un rapport au temps trop tendu, trop fébrile, trop accéléré, soyez ce changement. Donc, osez être plus lent, perdez votre temps pour les autres, réfléchissez bien aux réalités importantes que vous ne voulez pas évacuer. Je pense qu'on a tous cette liberté de le faire, et en le faisant, ça ne change pas seulement soi-même, ça peut changer le monde. Je crois qu'il nous faut le croire.
Un mot pour nos auditeurs que vous retrouverez dès demain. Si vous aviez, je dirais, peut-être un encouragement, si cette question aussi de gestion du temps est compliquée au quotidien et génère du stress, car il y a aussi la question du stress dans ce monde d'aujourd'hui.
Oui, je pense que je vous encourage à accepter de vous poser la question de votre rapport au temps sans rentrer tout de suite dans des culpabilités, dans des « je fais mal », mais juste se dire « tiens, qu'est-ce qui pourrait être plus beau ? Qu'est-ce qui pourrait être plus grand ? Qu'est-ce qui pourrait être meilleur pour les autres et pour moi ?» Le voir positivement.
Et voir la beauté aussi.
Et voir la beauté.
Père Ludovic Frère, recteur du sanctuaire Notre-Dame du Lot, auteur de « Éloge spirituel de la patience » aux éditions Artege, et ici, en pèlerinage pendant ce rosaire, dans ce sanctuaire de Lourdes. Je vous retrouve demain, à la même heure. À demain, et merci de votre temps.
Au revoir à tous.